L'opération sortie d'Égypte, si vous voulez, s'est fait avec la mitzvah de Hachodesh Hazelachem, en nous donnant la mitzvah de Kiddush Hachodesh, c'est-à-dire de sanctifier le nouveau mois, c'est-à-dire en donnant à des gens qui étaient encore des esclaves, formellement ils étaient esclaves de Pharao, et on leur a donné néanmoins une maîtrise du temps, ce qui était exactement le contraire de la situation d'un esclave qui, lui, ne est caractérisé par le fait qu'il ne maîtrise pas son temps. La notion de temps, elle joue un rôle dans la situation suivante. On a vu que quand on fabrique la matza, on prend le secret, on prend de la farine. Non, ça va pas, il faut fermer vos, s'il vous plaît. On prend de la farine et de l'eau. Et on travaille cette pâte, qui est difficile à travailler parce que quand il y a que de la farine et de l'eau, c'est assez difficile à travailler. Puis, ensuite, on la cuit rapidement. Et il y a, quand vous mangez cette matzah, vous avez le goût de la matzah. Et si vous faites la même opération avec de la farine et de l'eau, et vous faites du pain, le pain, il n'a pas du tout le même goût que la matzah. Mais qu'est-ce qu'il a de différent? Il n'y a pas d'ingrédient particulier obligatoirement dans le pain. C'est aussi de la farine et de l'eau. Alors l'ingrédient particulier qu'il a, c'est le temps. C'est le temps qui va faire que vous allez avoir du pain ou bien vous allez avoir de la matzah. Le temps. Le temps en question, c'est un temps qui est en quelque sorte un temps presque stérile par rapport au travail de la pâte. C'est un temps où on a cessé de travailler la pâte. Et on laisse la pâte évoluer, on la laisse continuer de vivre, si vous voulez. Et avec le temps, elle va devenir chametz. Si elle est, quand vous avez une matzah, elle peut jamais devenir chametz. Si elle est matzah, c'est définitif, c'est, on peut pas en faire de chametz. Par contre, la même pâte, la pâte que vous avez préparée pour faire de la matzah, si au lieu de la mettre tout de suite dans le four, vous la laissez évoluer, elle va devenir chametz. Et donc, ce sera le goût du pain et pas le goût de la matzah. Pourquoi? À cause de cet ingrédient particulier qui est le temps. Et le temps, il va donc changer le goût. Or, la notion de goût, le soir du seder, elle est très importante. On voit très bien que il faut avoir le goût du maror. Il faut avoir le goût de la matzah dans la bouche. On l'avait dit, j'imagine que c'est avec vous qu'on avait déjà parlé, j'en avais parlé déjà avec vous. On doit avoir le goût du Korban Pessah. Et on veut même que ce goût du Korban Pessah, ce soit le dernier goût qu'on ait en vie, qu'on ait en bouche et qu'on s'endorme littéralement avec ce goût-là en bouche. Au point que la phrase qu'on enseigne au Chacham qui pose une question, qu'est-ce qu'on lui enseigne toutes les halachot, jusque c'est y compris la dernière des halachot du Korban Pessah, donc qui nous concerne, la dernière halacha qui concerne la nuit en question, c'est « En martirin acharan Pessah hafikoman ». Après le Korban Pessah, il n'y a pas de dessert. Pas de dessert, pourquoi pas de dessert? C'est vous n'êtes pas privé de dessert, d'abord parce que si vous voulez absolument, vous pouvez prendre votre dessert avant de manger le Korban Pessah, mais pas de dessert parce que le dessert va enlever le goût du Korban Pessah de votre bouche. C'est pour ça que nous qui remplaçons le Korban Pessah par la matzah de la Korban, cette matzah-là, on veut en garder le goût en bouche. Et donc, on peut prendre de l'eau ou quelque chose qui n'enlève pas le goût. C'est pas un issour, c'est pas un Yom Kippour après. C'est pas bon. mais on ne veut pas manger quelque chose ou boire quelque chose qui enlèverait complètement le goût de la matzah, qui représente, cette matzah, elle représente le korban pessah. Alors, d'abord une petite remarque, comment est-ce que cette matzah, elle peut représenter le korban pessah, alors que la matzah, elle avait, durant la soirée du Seder, elle a eu d'autres fonctions. Vous vous souvenez, la matzah, d'entrée, la première chose, c'est que considéré que, comme nous disons, l'achma ania de achalu avatana mitzvahim, c'est ce pain du pauvre, que nous mangions en Égypte, c'est-à-dire les Égyptiens, quand nous étions esclaves, ils nous nourrissaient avec de la matzah. Donc la matzah, c'est le pain de misère. D'accord? C'est l'echem oni, donc le pain de misère. Mais c'est à la fois pain de misère, mais aussi un pain sur lequel on va parler. D'accord? C'est-à-dire, la dracha sur le mot oni. Oni, ça veut dire répondre. Chez onim alav, c'est-à-dire, sur ce pain-là, on va beaucoup parler, on va répondre aux questions. On va répondre aux questions qui ont été posées sur ce pain. Concrètement, ça se traduit par la chose suivante. Tout le récit de la Haggadah, il doit se dérouler à matzot découverte. D'accord? C'est le seul moment où on couvre les matzot, c'est quand on va les brachot sur le vin, parce que normalement on devrait faire la bracha d'abord sur la matzah. D'accord? C'est comme le soir du kiddush de Shabbat, le soir du Shabbat, où ceux qui mettent des chalot, du pain sur la table, et on met le pain sur la table et on le couvre. On pourrait tout aussi bien ne pas le mettre sur la table. D'accord? Pourquoi? Parce que, en fait, pourquoi il faut le couvrir? Il faut le couvrir parce que dans la liste des priorités, quand on a l'intention de manger deux choses et qu'il y a le pain et le vin, d'accord, le pain a priorité dans la liste des sept fruits d'Eretz Israël. Et donc, puisqu'on va faire kiddush, on va lui brûler la politesse au pain, alors pour qu'il ne soit pas humilié en quelque sorte, on va le recouvrir. D'autres ne le mettent pas simplement, on ne le met pas sur la table, c'est tout. C'est ça. Alors après, bien sûr, on a surcommenté cette façon de couvrir. On va dire que, comme le pain de Shabbat, par exemple, il représente un peu la manne, et que la manne, quand on la recevait, elle tombait entre deux couches de rosée, alors on va dire que la couverture, recouvrir par-dessus, et certains recouvrent aussi par-dessous, c'est un rappel, en quelque sorte, de cette rosée qui entourait la manne quand on la recevait. Ça, c'est une sur-explication. L'implication halakhique, directement, on est en train de faire honte au pain. Alors, pour qu'il n'y ait pas honte, on va le couvrir. Alors, ce que je vous dis, c'est que le récit de la sortie d'Égypte, tout le récit de la Haggadah, quasiment, hein, se fait à matzot découverte. Et on va voir tout de suite pourquoi. Parce que quand on regarde la suite des événements, la matzah, elle va devenir une matzah qui est le pain de la liberté. Parce que matzah joue chez nous au chlim al shumma. Pourquoi est-ce qu'on mange la matzah? À cause du korban pesach, à cause de qu'Hachem a passé par-dessus les maisons. Non, c'est pas vrai. Parce que ça n'a pas eu le temps de monter, parce qu'on a été libéré tellement rapidement, d'accord? Donc quelque part, cette matzah, elle fait référence à la libération des Keref Aïn, dans un clin d'œil, en quelque sorte, des Bnei Israël. Donc c'est un pain de liberté. Alors qu'est-ce que ce pain qui, au début du repas, au tout début du soir de ce qu'on fait le soir du Seder, c'est le pain de la misère. Tout à coup, il est devenu pain de la liberté. Qu'est-ce qu'il est arrivé à cette matzah? Comment elle a fait pour changer? Alors, l'explication, elle est évidemment, elle est assez simple. C'est qu'en réalité, cette matzah, elle a été bombardée entre-temps. D'accord ? Elle était sur la table et on l'a bombardée. On l'a bombardée de quoi ? On l'a bombardée de paroles. On l'a bombardée de paroles qui... de paroles concernant la sortie d'Égypte. On a parlé sur cette matzah, pour ça qu'il s'appelle Lechem Oni. On sait déjà dès le départ qu'il s'appelle pain du pauvre, mais la terminologie qui est utilisée pour dire pain du pauvre, elle peut aussi vouloir dire le pain sur lequel on va beaucoup parler. Et effectivement, quand on aura beaucoup parlé sur ce pain, il deviendra un pain de la liberté. D'accord ? Il y a une matzah qui n'a pas subi ce bombardement. C'est ce que nous, on appelle la ficomane. Parce que la ficomane, on l'a cachée. Elle était couverte. Elle était hors. Elle n'a pas été bombardée par les paroles. Parce que elle n'a pas du tout la fonction d'être de la matzah. Elle représente le korban pesach. Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'est la matzah. Elle n'est pas mangée comme matzah en tant que telle. Elle est mangée comme représentant le korban pesach. Donc elle n'a pas besoin d'être bombardée. Elle est dès le départ quelque chose d'autre. On l'a mise de côté parce qu'elle va jouer un autre rôle. Donc ça c'est la matzah. Et cette matzah là, celle qui n'a pas été bombardée, celle qui joue le rôle du Korban Pessah, cette matzah-là, on la mange à la fin du repas, en lieu et place du Korban Pessah. Je répète encore que le Korban Pessah n'était pas la nourriture de la nuit. D'accord ? A priori, le repas du soir, le repas du Seder, la viande de ce repas, c'est pas le Korban Pessah. La viande de ce repas, c'est une autre viande, qui s'appelle Chagiga du 14. La Chagiga, c'est la viande de la fête, Chag. Viande de la fête, dont on a fait la Shrita le 14, si on n'avait pas d'autres viandes. Si on avait d'autres viandes, on n'avait pas besoin. Et on allait manger une autre viande. C'est tout à la fin du repas, quand on est complètement rassasié, qu'il y a une mitzvah de manger le Korban Pessah. Et comme on est rassasié, on ne peut pas en manger beaucoup. Alors, on va en manger la grosseur d'une olive. De cette viande-là, viande qui a été préparée selon les règles bien précises, les règles du Korban Pessah, et on va en manger un kezaït, c'est tout. On ne pourrait pas en manger plus parce que sinon ça s'appellerait ce qu'on appelle achila gassa, c'est-à-dire c'est une achila grossière. C'est-à-dire que quand on mange, quand on n'en peut plus, quoi. On mange au-delà, on est déjà rassasié, on continue de manger. D'accord ? Et c'est ça qu'on dit au Chacham qui a posé la question, on lui dit « Ein maftirin achar pesach afikoman ». Ça veut dire après le Korban Pessah, on ne mange pas le dessert. Parce que on veut que ce soit la dernière chose qu'on ait eu. Quelque part, c'est comme si la ficomane ou le Korban Pessah jouait le rôle du dessert. Il est mangé en dessert lui-même. Donc il n'y a pas de dessert après lui. Pourquoi il est mangé en dessert lui-même? Parce qu'il couronne en quelque sorte tout ce qu'on a fait ce soir-là. Il couronne le Korban Pessah. C'est la consommation du Korban Pessah. Tout le reste, c'est les... Il faut parler, il faut se souvenir de la sortie d'Égypte, etc. Mais maintenant, le couronnement, c'est de manger le Korban Pessah. La mitzvah du soir, en quelque sorte, ce soir-là, celle qui donne son nom à la fête. N'est-ce pas? Le Pessah, en fait, ça ne concerne, c'est un nom qui ne convient vraiment qu'à la soirée où on mange le Korban Pessah. Le reste du temps, c'est Chag HaMatzot. Alors, on peut, disons, si on est généreux, on va pouvoir dire, on va appeler Pessah le premier jour, chez nous les deux premiers jours, mais après c'est Chag HaMatzot, c'est la fête des Matzot, il n'y a plus de Korban Pessah du tout. On n'en parle plus, de Korban Pessah. On l'a mangé le soir, le premier soir, et c'est tout. Et après, si tu veux manger, tu manges des matzot. Tu peux manger du pain, si vous voulez, tu peux manger du pain, hametz, tu manges de la matzah. Alors, cette notion qu'il va falloir garder le goût. Le goût. On va aussi avoir mangé du maror, et le maror, on le mange pour son goût, on le mange pour son amertume. On n'est pas du tout en train de, on n'est pas en train de manger de la verdure pour la digestion, pour la beauté de la chose. On le mange parce que ça a un goût, ça a le goût de la souffrance qu'on nous a imposée. Ils marou et chayim. Ils ont rendu amère la vie de Bnei Israël en Égypte. Et on va garder cette amertume par le biais du goût, le goût de l'amertume. On a le goût de la liberté, le goût de l'amertume, le goût de la matza en tant que matza pour nous, mais en fait c'est aussi le goût du Korban Pessah, et le goût du Korban Pessah c'est le goût de la proclamation de la singularité d'Israël. Le peuple juif a été singularisé parce qu'Hachem est allé le prendre au sein même du peuple égyptien. Il a pris des gens qui étaient quasiment des Égyptiens et il les a sortis de là et il en a fait son peuple, etc. Et donc c'est ce qui s'est passé là, c'est des choses extraordinaires. Voilà, on est... Hachem a fait, il a singularisé le peuple. Dire la singularité d'Israël, c'est dire la singularité du peuple d'Hachem. Et ce peuple, il doit être singulier. Pourquoi? Parce que sinon, il serait pas le peuple d'Hachem qui est singulier, qui est Echad. Il est Yachid, Echad, Yachid. Il est un, il est seul, il est unique, il est incomparable, etc. Donc, le peuple juif doit être tout ça. Donc, la notion de goût, elle joue un rôle fondamental. Et c'est intéressant de dire que quand on veut parler, garder le... qu'est-ce qu'on doit tirer de cette soirée, en fait? Qu'est-ce qu'on a fait de la sortie d'Égypte? C'est très bien, mais raconter la sortie d'Égypte, c'est... pourquoi est-ce qu'on raconte cette sortie d'Égypte? On raconte parce que, comme a dit le Rambam, cette nuit-là, HaKadosh Baruch Hu nous a fait des nissim et des niflaot. HaKadosh Baruch Hu nous a fait des miracles. Donc, je vous ai dit, je crois, dans un autre cours, que on est très surpris de lire le Rambam. Vous vous souvenez? Nous, on s'attend quand on regarde le Rambam pour savoir comment il décrit la mitzvah de mentionner la sortie d'Égypte. On s'attendrait à ce que le Rambam écrive mitzvah comme il écrit comme ça, il commence comme ça, mitzvah tase minatora, il y a une mitzvah positive, minatora, d'accord, le saper, de raconter, et puis si j'avais dû continuer, je dirais le saper b'itziat Israël. Bon, ben pas du tout, le Rambam il a pas écrit ça. Je pense que certains l'ont entendu déjà dans notre cours, je répète quand même. Le Rambam a écrit « Mitzvah Taseh Minatora, le saper, benissim veniflaot, raconter les miracles, les choses extraordinaires, shenasu laboteinu, de Mitzrayim, qui ont été faits pour nos ancêtres en Égypte, belel chamisha asar, la nuit du 15, Nissan. » Pourquoi est-ce que le Rambam dit? Pas un mot de Yetziat Mitzrayim. Vous me dites, mais il va en parler après. Ok, regardons après. Qu'est-ce qu'il dit après? Il dit, le fil, il faut, la mitzvah, elle est, comme c'est écrit dans la Torah, le saper, le bincha, ou le bincha, à ton enfant, à ton petit enfant, tu vas raconter. Donc, il faut raconter à l'enfant. Alors, évidemment, puisqu'on raconte à l'enfant, le Rambam dit tout de suite, il faut raconter à l'enfant, mais il faut le raconter en fonction de la maturité de l'enfant. On va pas raconter, il faut qu'il puisse comprendre ce qu'on va lui dire. Alors le Rambam il dit Ketsad, comment il raconte ça? Alors il dit, voilà, si l'enfant est mineur, un katan, ou bien si l'enfant il n'est pas doué, il est un peu tipèche, il va pas le dos de la cuillère, le ramam là, il est tipèche, il est un peu imbécile sur les bords. Alors voilà comment le père lui parle. Il lui dit, Béni, souvenez, on a déjà parlé de ça, il lui dit, mon fils, regarde, il fait venir, le ramam fait venir à table, enfin, à la table, son esclave, et sa servante. Rambam, il décrit la situation comme si on avait, vous avez sûrement une servante et un esclave, homme, femme, vous allez faire venir à table, et vous allez dire à votre fils, mineur, tu vois, en Égypte, on était comme lui et comme elle. Jusque-là, on peut imaginer que l'enfant, il comprend qu'il se passe quelque chose. Bon. Je sais pas comment on les traite dans sa maison, traiter l'esclave. Et la servante, je ne sais pas comment on les traitait. Peut-être que l'enfant, ça lui donne une idée. Et ensuite, Ramam continue. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu, Pada. Akadosh Baruch Hu nous a racheté, Pidyon. Il nous a racheté un esclave. Il est l'esclave de A, et monsieur B vient et dit, je t'achète ton esclave, pour qu'il devienne mon esclave à moi, ou pour que je le libère, peu importe, mais je te l'achète. Hachem a acheté en quelque sorte les Bnei Israël qui étaient les esclaves de Paro, il les a achetés. Qu'est-ce qu'il a payé? Peu importe. Voilà, il nous a achetés, c'est Pidyon. Et puis ensuite, et il nous a amenés à la liberté. Il nous a amenés le Chérout. Alors, clair, n'est-ce pas? On parle d'un petit enfant, il est mineur, donc disons qu'il a 11 ans, 12 ans si vous voulez. Et le père est en train de lui expliquer, voilà, on était comme eux. Maintenant, après, il faut enseigner à l'enfant. C'est marqué, on enseigne à l'enfant quoi? Que Hachem nous a sortis d'Égypte. Il nous a... Il dit pas du tout sortis d'Égypte. C'est pas vrai. C'est ce que je dis moi, mais c'est pas vrai. Il dit à l'enfant, il lui dit, il nous a rachetés et il nous a amenés à la liberté. L'enfant comprend évidemment très bien de ce dont on parle. Il comprend très bien la notion de pidyon, il comprend très bien la notion de chérout, de liberté, etc. Voilà. Voilà le Rambam. Bon. Alors après, il dit, et maintenant, si l'enfant est gadol, si l'enfant est majeur, vechacham, il est sage, il est intelligent, alors voilà ce qu'il lui dit. Il lui dit, ben voilà, on était en Égypte, et Kadosh Baruch Hu nous a fait des nissim et niflaot. Il a fait des nissim par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. Donc, pas un mot de Yetziat Mitzrayim, bien sûr. Nissim et niflaot. Des miracles. Donc vous me direz, la sortie d'Égypte, c'est un miracle. C'est pas sûr du tout que les Israël ont vécu la sortie d'Égypte comme un miracle. Des miracles, ils en avaient vu, ils ont vu les 10 plaies, ça c'était des miracles spectaculaires. Sortis d'Égypte, je ne sais pas s'ils l'ont vécu, ils ont été occupés à sortir, à marcher. Ils ont marché, on ne sait pas comment ils sont sortis. En tout cas, pas un mot de Yetziat Mitzrayim explicitement, pas du tout. Par contre, Nissim et Niflaot. On a déjà expliqué un peu ces choses-là. Donc, voilà, on doit garder, alors, c'est quoi, donc cette sortie d'Égypte, elle représente l'accès à la liberté, on est sorti d'Égypte, on avait expliqué, on est sorti d'une situation, c'est pas du tout un changement, je répète certaines choses déjà, c'est pas un changement de territoire, on n'est pas sorti du territoire égyptien et on est entré dans un autre territoire, qui s'appellerait Midbar, qui s'appellerait désert. Bon, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de sortir de l'Égypte en tant que... Qu'est-ce que c'est que l'Égypte? L'Égypte, c'était une certaine façon de voir le monde, une certaine façon de vivre. Et donc, si je regarde, c'était une certaine façon pour Hachem de gouverner le monde à un certain moment. Il gouvernait les Bnei Israël à un certain moment. Et puis on est sorti et on est entré dans une autre gouvernance, en tout cas du clan Israël. Bon, l'Égypte a été détruite, mais le clan d'Israël vit d'une façon complètement différente. Hachem gouverne le clan d'Israël d'une autre façon. C'est tout. C'est ça la sortie d'Égypte, en fait. C'est ce changement de façon de regarder le monde, c'est-à-dire de comprendre qu'Hachem gouverne le monde d'une toute autre façon. On a dit déjà dans d'autres shiurim que en même temps que nous sortons d'Égypte, Hachem a utilisé, il nous a fait vivre selon le Shem Hachem, dans le tétragramme, Yudke Vavkei, comme il l'a dit à Moshe Rabbeinu. Jusque-là, je n'avais jamais donné aux hommes la possibilité d'expérimenter ce nom-là. Les noms d'Hachem ne sont pas des noms. Hachem n'a pas de nom. On ne peut pas dire quoi que ce soit sur Hachem. Sur Hachem lui-même, on ne peut rien dire. Ce qu'on connaît, nous, c'est la façon dont Hachem gouverne le monde. Et nous disons que ces façons différentes de gouverner le monde, elles correspondent à un nom divin. Il y a une façon de gouverner, selon la rigueur, par exemple, qui correspond au nom divin Elohim. Et puis, il y a toutes sortes, il y a Rachum, Chadoun, etc., Shakai, etc. Et puis, il y a un nom, super nom, si vous voulez, qui est le tétragramme Yudke Vavke. Les autres sont aussi des tétragrammes. Adnout, c'est aussi quatre lettres, mais quand on dit le tétragramme, on pense celui de Yudke Vavke. Et ce nom-là, c'est le nom par excellence, c'est le nom qui correspond à la réalité, à la vraie réalité. Tous les autres, ce sont des façons particulières de gouverner le monde, selon cet aspect des choses, selon... Voilà, avec les Avot, il a parlé, c'était le nom Shem Shakai, c'est-à-dire, dans Shakai, vous avez le Shin Daled Yud, le Daled Yud, ça fait Dai, c'est-à-dire, voilà, chacun a reçu ce dont il avait besoin. Mais pas plus, c'est pas aller plus loin, etc. Et ils avaient besoin de promesses, ils ont reçu des promesses. Visiblement, ils n'avaient pas besoin de la réalisation des promesses, ils n'ont pas reçu la réalisation des promesses. Mais la réalisation des promesses, c'est-à-dire où Hachem va faire tout ce qu'il avait promis à Avraham Avinu. Vous vous souvenez que Avraham Avinu, quand il a commencé son idée, en quelque sorte, d'accord, il a dit, voilà, moi, ce que l'humanité n'a pas fait, l'humanité, elle avait été en charge de faire ce qu'Hachem avait demandé à Adam Harishon de faire, qu'il n'a pas fait, ça a passé à l'humanité tout entière, l'humanité, elle n'a pas fait ce qu'il fallait, alors ça s'est dégradé, il y a eu le déluge, ça, on a recommencé, ça s'est redégradé, ça a donné la tour de Babel. À ce moment-là, le Ramchal explique que c'était fini. Hachem pensait que bon, c'est tout. Et ça a raté en quelque sorte, on va faire autre chose. Mais Avraham Avinu a dit, non mais moi je continue. Je suis prêt, moi, à faire le job. Je vais faire le travail. Je vais développer un peuple qui va faire le travail. Et quand ce peuple-là aura fait le travail, alors l'humanité sera réputée l'avoir fait. C'est-à-dire, en d'autres termes, quand on arrivera au temps messianique, disons, le Mashiach, il ne vient pas que pour les Bnei Israël. Il va venir pour le monde entier. D'accord? C'est-à-dire, les Bnei Israël ont fait le job, le travail, et ils ont pris et Avraham Avinu, il a pris la responsabilité de cela, cette énorme responsabilité, d'accord? D'accord? Qui nous reste, nous, essentiellement, cette fameuse élection d'Israël dont on parle comme ça, c'est une élection pour la responsabilité. Alors, mais c'est pas du tout que c'est pour le peuple d'Israël, mais n'importe qui peut entrer dans le peuple d'Israël. Nous sommes un peuple, mais nous sommes un peuple de convertis. Le Sinaï, c'est une conversion généralisée. Ce qui s'est passé au Sinaï, c'est une conversion. Il y avait des gens qui étaient... Il pouvait dire, moi je suis le descendant d'Abraham Abinou, c'est, je suis un descendant de Yitzhak, un descendant de Yaakov, par telle et telle tribu, etc. Et très bien, magnifique, très bien, mais tu te convertis comme tout le monde. La conversion, c'est tout le monde est converti, tous ensemble. Avec la Mila, Moshe Rabbeinu a fait faire la Mila à tout le monde, concernant les hommes, et puis ensuite il y a une Tvila, etc. On explique comment. Et le Rabbi dit cette conversion, il dit que depuis, ben, on fait exactement la même chose quand quelqu'un veut se convertir, on lui applique exactement la même procédure que celle que le clan Israël, dans sa totalité, a vécue au Sinaï et qui a fait de lui le peuple d'Israël. Dans le peuple d'Israël, il n'y a personne qui peut dire « moi, j'ai toujours été ». Non, personne n'a toujours été. On est tous des convertis. Le premier converti, c'est Abraham Avinu. Gmara dit « Abraham Avinu, il est Trilat HaGerim ». Il est le premier des guéris. Lui aussi, il n'est pas né... Il est né dans une famille complètement pourrie et d'idolâtre, fabricant d'idoles, etc. Ça, c'est Abraham Avinu. Même Abraham Avinu, il n'est pas... C'est lui, il a fait un travail de conversion, puis après, il a fallu refaire un travail de conversion pour la collectivité qui sort d'Égypte, qui va sortir d'Égypte et qui va donner ce peuple d'Israël. Donc, tout le monde peut entrer. Si quelqu'un veut entrer, ben il entre. Pourquoi il ne peut pas? Mais on ne peut pas sortir. Une fois que tu es devenu juif, tu ne peux plus sortir. Pourquoi tu ne peux pas sortir? Parce qu'être juif, c'est être responsable. Et quand tu es responsable de quelque chose, tu ne peux pas dire au revoir, monsieur, dame, je vous laisse mes responsabilités, je m'en vais. Tu es responsable. Tu ne peux pas échapper à ta responsabilité. Donc on ne peut pas sortir. Mais tout le monde peut entrer. Il n'y a pas d'exclusive. Il y avait un certain temps, on disait, on ne peut pas accepter celui-ci, celui-là, mais historiquement, bas Sancheriv, il y a eu un mélange avec quand le roi assyrien a conquis le monde quasiment, il a tout mélangé, et donc, comme on dit, Rome n'est plus dans Rome, plus personne n'est à sa place, donc on peut épouser n'importe qui, sinon on aurait des problèmes. On ne pourrait pas épouser des gens qui sont issus de Moab ou de Moab, on ne pourrait pas les épouser. Mais maintenant, on peut épouser n'importe qui parce que tout est mélangé et donc on n'a pas de... Voilà. Donc n'importe qui peut entrer dans le peuple juif. N'importe qui, absolument n'importe qui. Et donc, devenir responsable. Et donc, d'une certaine manière, on peut très bien dire que la sortie d'Égypte, c'est la sortie d'un groupe de gens qui étaient aussi irresponsables qu'on peut, puisqu'ils étaient esclaves. Ils n'étaient responsables de rien du tout. Un esclave n'est pas responsable. Il appartient à son maître. Il fait que son maître, il n'a pas le droit de faire des choses de sa propre initiative. Donc, il ne peut pas en répondre. Il peut répondre de rien du tout. Alors, il fait ce que son maître lui dit, c'est tout. Alors, on est sorti à la liberté, et du coup, maintenant, on est responsable. On est sorti à la responsabilité. Un élément de la liberté, c'est d'être responsable. Et le grand problème, c'est quand les gens n'assument pas, ne font pas ce qu'ils devraient faire parce qu'ils sont responsables. C'est encore aujourd'hui un problème. Bon, les gens sont responsables, et puis ils sont responsables, et puis ils font pas ce qu'il faut. Responsable de la santé, on ne s'est pas occupé de la santé. Responsable de l'éducation, pas occupé de l'éducation. C'est un manque de responsabilité. C'est un désastre. Alors, le clan d'Israël est responsable. Donc c'est une des dimensions. Et donc le goût de l'unité du clan d'Israël, le goût de la responsabilité du clan d'Israël, c'est ça qu'on doit garder en bouche en quelque sorte. Quand on garde en bouche, on n'est pas en train de le manger. On n'a pas dit que c'est pas du chewing-gum qu'on va mâcher pendant toute la nuit. D'accord? C'est simplement le goût qui va rester. Le goût. Or, le goût, c'est justement la chose qu'on ne peut pas décrire quasiment. Essayez de décrire le goût de quelque chose. Vous ne pouvez pas. Alors, il y a des conventions. Si vous écoutez quelqu'un qui s'y connaît en vin, il va vous expliquer que le vin, il est long en bouche, etc. C'est le seul mot que je connais. Donc je le sers, mais il y en a plein d'autres. Les spécialistes, ils vont vous donner toutes sortes de qualificatifs de le vin, il est comme ci, il est comme ça, etc. Bon, moi, je sais seulement s'il est bon ou pas, mais c'est tout. Mais, d'accord. Mais, on ne peut pas décrire le goût. Ça n'a pas de sens. Justement, mais c'est exprès. comme on ne peut pas décrire Hachem, on ne peut pas décrire non plus jusqu'où va la responsabilité. Qu'est-ce que c'est vraiment la liberté? La liberté, ça peut devenir un slogan, mais le goût de la liberté, on ne peut pas le décrire. Il y a une notion qui s'appelle le goût de la liberté. Mais vous ne pouvez pas le décrire. Tout ce qui est de l'ordre du goût, vous ne pouvez pas le décrire. Et c'est exprès. Ce qu'on garde, c'est le goût des choses. Alors, la matza, elle a un certain goût, qui est différent du goût du pain. Alors, elle avait un goût de misère, ça rappelait la misère dans laquelle on était, l'esclavage. Elle est devenue, grâce à des paroles, grâce aux livres Torah qu'on a dites, grâce aux récits dans lesquels on a raconté l'évolution du clan Israël, on a raconté un peu ce qu'étaient les événements par lesquels ils ont passé pour qu'on les raconte. N'est-ce pas? Dans la Torah, c'est marqué explicitement qu'en ce qui nous concerne, les Adibrot, dans lesquels on voyait la différence, n'est-ce pas? L'Aseret Adibrot, c'est, c'est les Makot. Je voulais dire, les Makot, on voyait la différence. L'Égypte était frappée, et les Bnei Israël à côté, ils n'étaient pas frappés. Quand il y a eu le problème des animaux qui mouraient, qu'est-ce que Paro a fait? Il a envoyé des gens regarder à Goshen, là où étaient les Bnei Israël, si les bêtes, si le bétail des Bnei Israël mourait aussi. Parce que s'il mourait aussi, alors il leur dit, non, c'est une épidémie, c'est pas significatif. Hachem, le Gaon explique qu'Hachem a fait un miracle à ce moment-là, qu'aucun animal n'est mort de mort naturelle. Ce jour-là, lorsqu'il a envoyé ses bon. Ça veut dire que si, après ça, s'il y avait eu une mort dans le bétail des Bnei Israël, Paro aurait dit, c'est une épidémie, elle a frappé ici 150 000, ou je sais pas, 300 000 bêtes, et ici 1000 bêtes, mais c'est jamais qu'une différence quantitative, pas qualitative. Donc il aurait pas reconnu. Donc Hachem a fait en sorte de singulariser le clan Israël dans chacune de ses makotes. Dans l'histoire des Israël, et vous pouvez voir, si les Égyptiens ils achetaient l'euro au Bnei Israël, eh bien, puisqu'ils l'avaient payé au Bnei Israël, ça restait de l'eau, ils pouvaient boire. Donc il y avait une singularisation systématique pour toutes ces choses-là. Les Bnei Israël ont vu des tas de miracles, effectivement, qui à chaque fois mettaient en avant la différence entre l'Égypte et les Bnei Israël. Mais ça, c'est une différence qu'Hachem lui-même a mise. Mais la réalité, c'est que, au fond, des anges, qui sont des anges bienveillants à l'égard des Bnei Israël, au passage de la mer, quand les Bnei Israël passent la mer à pied sec, et que les Égyptiens sont noyés dans cette mer, les anges crient au scandale. Allô, Ovdei Avodazara, et allô, Ovdei Avodazara. Ceux-là sont des idolâtres, et ceux-là sont des idolâtres. Les anges ne voient pas la différence. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Ce n'est pas fait autrement que les Égyptiens. C'est juste des fabriqués. Ils avaient les mêmes organes. Le corps humain était le même, que ce soit celui des Bnei Israël et celui des Égyptiens. Il y a eu pendant un certain temps une différence, c'était la Mila, mais à la mort de Yosef, les Bnei Israël, ils ont cessé de faire la Mila. Le Beit HaLevi explique, ils ont voulu éliminer la différence. Alors, le Midrash raconte que Hachem a dit, vous voulez éliminer la différence, c'est-à-dire, vous voulez pas vous la marquer, ben, elle sera marquée de l'autre côté. Et le Midrash dit que quand un Égyptien il voyait un Ben Israël, il vomissait. C'est le Midrash qui le dit. Quand il nous voyait, ils vomissaient. Ils étaient à ce point dégoûtés qu'ils nous vomissaient. C'est-à-dire, si toi tu ne veux pas, nous, on doit se conduire, on doit faire des choses pour marquer la différence. Pas de façon méprisante, il y a une différence. La différence essentielle, c'est nous on est responsables, eux ils ne sont pas responsables. De la même manière. Nous on a une responsabilité particulière. Eux non. Eux non. Et si nous on ne marque pas la différence, c'est eux qui vont la marquer. On a dit sur Am Yisrael Salanter, quand il y a eu la création à Brunswick en Allemagne de mouvement réformé, il a dit, maintenant il y a des juifs qui ont décidé d'abolir la différence entre les juifs et les goïms, de pouvoir permettre qu'on épouse des non-juifs, etc. Un jour viendra, et c'est les goïms eux-mêmes qui vont interdire. Cette chose-là, elle était à Brunswick et ensuite elle était à Nuremberg. Ça a donné une loi de Nuremberg. Une loi de Nuremberg, elles ont dit que l'Allemand n'avait pas le droit d'épouser un juif. Si les juifs ne veulent pas dire qu'ils n'ont pas le droit d'épouser un goy, c'est les goyens qui vont le dire. Mais ça va faire mal quand eux ils vont le dire. C'était ce qui s'est passé en Égypte. De toute façon, je crois que j'ai déjà dit plusieurs fois que si vous prenez le Midrash Rabbah qui décrit justement dans cette période, si vous remplacez le mot Mitzrayim par nazi, vous pouvez le lire tel quel. Ça marche très bien. Il n'y a pas de différence. On peut vous vendre le texte comme un texte qui décrit le nazisme. Enfin, le rapport des nazis avec les juifs. Donc, les Bnei Israël doivent garder le goût parce qu'il s'agit de bien montrer qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire en mots. Sur la matza, on a dit tout ce qu'on pouvait dire. Mais après, au-delà de ça, il y a de l'indicible, si vous voulez. Et l'indicible, on va le remplacer, on peut pas le dire. Alors on va le mettre dans le goût qui représente vraiment bien l'indicible. Alors, cette notion de goût, en fait, on a compris, la modification dans le goût, elle vient de, tel qu'on l'a dit, elle vient du temps. Mais dans le Korban Pessah, pour pouvoir marquer l'unité, alors on a mis pour nous, on a mis cette manifestation de l'unité très claire, dit le Maharal, on l'a mise dans la recette du Korban Pessah. Bon, puisqu'on a une question, le Midrash dit qu'Avraham Avinu aussi il a fait le Korban Pessah. Avraham Avinu n'a pas fait le Korban Pessah parce que Hachem a passé par-dessus les maisons des Bnei Israël en Mitzrayim. Alors pourquoi il faisait le Korban Pessah? Qu'est-ce qu'il faisait? Pourquoi il a fait le Korban Pessah? Avraham Avinu, il est dans un monde complètement idolâtre, polythéiste, idolâtre, tout ce que vous voulez. Il est tout seul. Il est seul, et il est seul à proclamer cette unité, cette unicité d'Hachem dans le monde. Et donc, il a décidé de faire un jour particulier où il va le proclamer plus fort que les autres jours, si vous voulez. Un jour particulier, ça consacré à ça. Alors, il a fait le Korban, c'est ça. Alors, la question qui se pose, c'est si lui, il a fait le Korban Pessah de cette manière-là, il a fait le Korban Pessah. Il a proclamé que c'était l'unité. Alors pourquoi nous on fait le Korban Pessah et pourquoi nous on proclame pas l'unité? On devrait proclamer l'unité. Or, nous on dit, on a fait le Korban al-Shumma. Bon. Al-Shum quoi? Al-Shum chez Passach. À cause de Passover. Parce qu'Hachem a passé par-dessus les maisons. passer par-dessus les maisons, c'est pas proclamer l'unité d'Hachem. Alors on a déjà vu, je répète pour mémoire seulement, en réalité, c'est proclamer l'unicité du clan Israël. Le Bnei Israël était complètement imbriqué dans l'Égypte. Les voisins des Égyptiens, etc. Et quand Jboukou est venu, il a singularisé complètement les Bnei Israël. Ici, il a tué le premier-né, et dans le même ligne, il y avait un premier-né égyptien qu'il a tué, et il y avait aussi un premier-né des Bnei Israël qu'il n'a pas tué. Donc, il a singularisé complètement. Ok, donc on a singularisé le peuple d'Israël, et Hachem, il singularise, et Abraham Avinu, il proclamait la singularité d'Hachem. Mais nous, pourquoi on ne proclame pas? Alors, en réalité, c'est vrai que singulariser, comme on a dit, le peuple, c'est singulariser le peuple d'Hachem. Donc, il est un, aussi, comme on dit à Fila de Mincha de Shabbat. On dit du clan Israël, Mi ki amcha Israël, Goy Echad. On dit que c'est ce verset-là qui est dans les Tfilin d'Hachem. À la place où chez nous, dans notre Tfilin, il y a marqué Shema Israël. Shema Elokeinu Hashem Echad. Donc lui, il proclame l'unité du clan Israël et nous, on proclame l'unité d'Hachem. Mais quand même, il faut quand même proclamer quelque chose de l'unité. Alors, on va le proclamer pas en parole, pas en disant, voilà, c'est pour ça qu'on fait le Korban Pessah, mais dans le Korban Pessah lui-même, il y aura cette unité, vous vous souvenez, c'est l'unité qui a, la viande, c'est la plus compacte qui soit, on n'a pas le droit de casser un os en deux pour en sucer la moelle, et on doit manger le Korban Pessah en formant un groupe, et s'unir d'abord avant de pouvoir faire la shrita du Korban Pessah, et ensuite le Donc, l'unité, elle est dite, dans les halachot. C'est-à-dire, celui qui comprend les halachot, qui sait qu'il y a dans le Korban Pessah qu'on mange, il y a des gestes qui ont été faits, des façons qui sont dans la recette de cuisine quasiment du Korban Pessah, des choses clament, c'est tout. Ça c'est, donc, ou bien avec le goût, ou bien avec la halacha, qui nous dit comment on fabrique les choses. C'est comme ça que nous, on a procédé. Il y a des choses qu'on a pu dire, des choses que quand on peut pas les dire, alors on les a mises ou bien dans le goût, ou bien dans la halakha de la chose qu'on va faire. Ce qui est intéressant, c'est que la matzah, le mot matzah, sa racine, ce mot-là, il est utilisé dans la Torah comme un mot qui indique la dispute ou la bataille. Et le mot lechem, le pain lui-même, c'est le mot c'est la racine milchama, qui est la guerre. Donc quelque part, le pain sous la forme matzah ou sous la forme hametz, à avoir avec la dispute, éventuellement la guerre. C'est la guerre contre quoi? Bon, quelque part, c'est quoi la guerre, en fait, ou la dispute? C'est la dispute contre le monde, en quelque sorte, au sens où on doit empêcher le monde de nous empêcher de voir Hachem. C'est une lutte contre le monde cache Hachem. D'accord? C'est Olam qui cache le Ne'elam, ce qui est caché, le nom d'Hachem. Alors nous, on va essayer de montrer quand même le nom d'Hachem. Il s'agit de faire en sorte qu'on puisse reconnaître Hachem dans le monde. C'est ça le but de la création. Hachem veut être reconnu dans le monde. Donc à nous de faire en sorte qu'il soit reconnu. Et donc il faut lutter contre le monde, c'est-à-dire contre tout ce qui, dans le monde, cache Hachem. Et d'une certaine manière, quand Hachem dit à Moshe Rabbeinu que les Bnei Israël doivent apporter le Korban Tamid, d'accord, il en parle en disant Korbani Lachmi, mon pain. Hachem présente le Korban Tamid comme étant son pain, son lechem, Lachmi, mon pain. Quoi? le korban tamid, c'est-à-dire le korban qu'on apporte quotidiennement, deux fois par jour en vérité, en deux, je veux dire c'est de moitié ou deux fois par jour. Donc il y a un korban et une démarche de s'approcher d'Hachem tous les matins et avant la journée et toutes les fins d'après-midi avant la nuit. Bon. C'est-à-dire qu'il faut placer les deux parties, la partie diurne et la partie nocturne, sous le bon éclairage. Qu'est-ce qu'on doit tirer et qu'est-ce qu'on doit en faire? Il s'agit de s'approcher d'Hachem. S'approcher d'Hachem, ça veut dire faire en sorte que Hachem soit présent, c'est-à-dire montrer la présence d'Hachem dans le monde. Montrer la présence d'Hachem dans le monde, c'est lutter contre tout ce qui s'oppose, tout ce qui empêche de voir Hachem dans le monde. Et les Israël sont en charge de cela. C'est ça que nous devons faire. Et comment est-ce que on est donc responsable de cela? Notre responsabilité, c'est de montrer qu'Hachem dirige le monde, montrer qu'Hachem fait en sorte que Hachem soit visible dans le monde. C'est ça notre job. C'est ça notre boulot, en fait. Alors, comment est-ce qu'on peut le faire? Comment est-ce qu'on voit les choses? Alors, si on regarde un petit peu en arrière, on s'aperçoit que la singularité, la responsabilité du clan Israël, elle s'est manifestée dans la naissance, au moment de la naissance même de celui qu'on appelle Israël, au moment de, pas de sa naissance, mais avec celui qui représente la naissance, avec Yaakov Avinu. Chez Yaakov Avinu, on voit quoi? On voit que il est à la veille d'une bataille contre Esav. Il va affronter Esav. C'est une bataille dont il sait que c'est une bataille a priori à la vie et à la mort. Il ne sait pas que Esav va finalement ne pas lui faire des ennuis. D'accord? Il ne voit pas ça. Et donc on pourrait voilà, il se prépare. Comment il se prépare? Bien, comme vous savez, il a partagé ses gens et ses biens, ses enfants en deux camps. Il les a fait traverser la rivière. Et lui, il a traversé avec eux. Et puis après, lui, il est revenu en arrière. Il a retraversé la rivière. Il est revenu en arrière. Et on nous dit pourquoi il est revenu en arrière. Il est revenu en arrière pour ces fameux Pachim Ktanim. Il est revenu en arrière pour récupérer des petits objets qu'il avait oubliés. Okay. On se demande vraiment, est-ce que c'est vraiment adéquat la veille d'une guerre, littéralement, et c'est de ça qu'il faut s'occuper, des petits trucs qu'il a oubliés. Alors, le Chachamim m'explique que la raison pour laquelle il revient en arrière, c'est parce que, et ils disent la chose de la manière suivante, parce que les Avot, ils étaient très, très, très sévères. Et très, très sévères par rapport au vol. C'est-à-dire que, si vous voulez, pour être au service d'Hachem, pour être évêque d'Hachem, il faut être complètement libre, totalement libre. Totalement libre, totalement indépendant. Totalement libre, ça veut dire aussi, comme on a vu, que voilà, il faut être dépendant de personne. Et de ce fait, les Avot, quand ils achetaient quelque chose, ils craignaient toujours que ce qu'ils achètent soit encore lié, ou plus exactement que celui qui leur vend la chose, il leur vend la chose à son corps défendant. Il le vend parce qu'il ne peut pas faire autrement. Mais en réalité, il est encore attaché à ces choses-là. Il leur vend. Et donc, il ne s'est pas complètement détaché. Et eux, ils considéraient que quelque part, l'objet, il avait encore un lien avec le vendeur. Donc, comment est-ce qu'on fait pour être sûr qu'il se détache? Eh bien, on est obligé de surpayer l'objet. Si on surpaye, alors le vendeur se dira, j'ai fait une super affaire, je l'ai roulé dans la farine, etc. J'ai gagné, etc. Donc là, il va se détacher. Bon, là, j'ai fait... Et donc, c'est pour ça que eux avaient tendance à surpayer. Et pour ça qu'ils étaient très... Ils faisaient très attention et ils considéraient d'une certaine manière que si j'achète quelque chose à quelqu'un qui n'a pas envie de me le vendre, et qu'il vend seulement parce qu'il en a besoin pour manger, etc., quelque part, il y a... Ça touche au vol, ça. C'est presque du vol parce que je prends quelque chose à quelqu'un qui n'a pas envie de me le donner. Ah, et j'ai payé, mais on voit très bien que payer, ça ne suffit pas. Dans la Torah, il y a un interdit de procéder de la manière suivante. Si quelqu'un vient chez un autre et il dit, voilà, ce truc-là qu'il y a chez toi, ça me plaît bien, je veux l'acheter. L'autre lui dit, mais c'est pas à vendre. Ben, il dit, écoute, combien ça vaut? Ça vaut 100. Voilà, je te mets 500 sur la table et je le prends. Alors même si le vendeur, ultimement, il est d'accord, il dit, bon, 500, d'accord. Mais quelque part, ça, pour les chachamim, pour les avots, ça avait un parfum de vol. Et quand on vole, on n'est pas indépendant. On est encore lié par les biens qu'on a, on est lié à celui dont on a pris les choses. Donc pour être totalement indépendant, qui était la condition sine qua non, qui est toujours la condition sine qua non pour pouvoir être évêque d'Hachem, d'accord, d'Hachem, uniquement évêque d'Hachem, parce que si on n'est pas uniquement évêque d'Hachem, mais si on dit aussi évêque d'Hachem, mais aussi évêque de celui-ci, de celui-là, etc., alors ça ne savait pas être évêque d'Hachem. Hachem, c'est l'exclusivité. Alors, pour cela, pour être... Alors, ils étaient prêts à surpayer. Et lui, les petites choses, il les avait... C'est pas la question de l'argent. C'est que c'est très difficile d'acheter des choses chez quelqu'un qui a pas, où on est sûr qu'il est complètement détaché de ce qu'il vous vend. D'accord? On voit très bien, par exemple, l'exemple le plus clair, c'est l'exemple de l'artiste. D'accord? Un artiste, il vous vend, un peintre, il vous vend son tableau. Vous l'avez payé le prix qu'il a demandé. Peut-être plus que ce qu'il en espérait. Mais à tout moment, la loi française, elle est qu'à tout moment, il peut venir chez vous et modifier le tableau qu'il vous a vendu. Ça veut dire qu'avec tout ce que vous avez payé, d'accord, c'est pas vraiment complètement à vous, puisqu'il peut venir et le modifier. Dans la vérité, c'est dit sur l'artiste, c'est vrai pour tous les artisans, et le temps des avot, ce qu'on achetait, c'était chez un artisan, c'était pas seulement un commerçant. Vous achetez un pot chez un potier, il avait fait le pot. Donc c'était son artisanat qui lui a la capacité d'être capable de faire un pot et qui réussisse, etc. Ça réussit pas toujours. Bon, quand vous lui achetez ça, il a pas tellement obligatoirement envie de vous le vendre, mais si vous le vend pas, il pourra plus si le peintre il vous vend pas sa peinture, il pourra pas acheter des toiles, il pourra pas acheter de peinture et il y aura peut-être même pas de quoi manger. Bon. Donc les avot, et il fait très attention au problème du gazel, problème du vol. Et quand on dit cela devant quelqu'un, devant un non-juif en fait. Alors, les gens juifs, quand ils entendent ça, ils entendent, donc tu me traites de voleur. Puisque moi, je fais pas attention de cette manière-là, tu es en train de dire que moi, je suis un voleur. Et c'est pas du tout ça qu'on veut dire. On veut dire que les avot, eux, ils avaient une exigence tout à fait particulière, à laquelle nous ne sommes pas toujours, nous, on n'est pas obligatoirement à la hauteur de cela. Mais le problème de notre rapport avec le vol, Le vol, on pourrait dire, c'est pas la plus grande faute qui soit. Tuer quelqu'un, c'est a priori plus important, plus grave que de le voler. Mais les Chachamim disent que quand il y a un paquet d'averot, tant qu'il n'y a pas le vol, ça peut passer. Mais dès qu'il y a du vol, il y a quelqu'un qui crie au voleur. Et du coup, ça attire l'attention et ça devient grave. Le vol, c'est quelque chose où, quelque part, c'est presque plus en contradiction avec ce qu'Hachem veut que le crime, en fait, que le meurtre. Et donc, il y a cette prétention. Nous, on est les descendants de gens qui font extrêmement attention au vol, à ne pas voler, donc. Et on entend ici, on entend très bien que la réponse des Goïm, ça a été de nous traiter de voleurs. Systématiquement, les Juifs sont considérés comme des voleurs. Pourquoi ? Parce que la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, puisqu'ils se sentent un peu attaqués quand on vient et qu'on dit que nos ancêtres faisaient attention, eh bien, pour se défendre, ils attaquent, ils traitent de voleurs. Alors, tant que c'est eux qui nous traitent, bon, c'est très embêtant. Le problème, c'est l'extrême gravité de la faute de ces Bnei Israël qui sont dans des trucs. On entend tout, ces derniers temps, on entend, et on entend, je viens d'entendre de nouveau aujourd'hui les mêmes choses, de nouvelles choses aussi. Quand les Juifs se mettent à voler, c'est extrêmement grave parce que, si vous voulez, c'est notre identité qui est en cause. On va pas dire les Juifs sont des meurtriers, ça, ils ont inventé ça, à Pessah, à l'îlot d'âme, les accusations de crimes rituels. Mais dès le moment que les Juifs sont des voleurs, ça veut dire. Et des fois, ces derniers temps, malheureusement, dans toutes sortes de grandes opérations de vol qui ont fait beaucoup de bruit, et à juste titre, malheureusement, on avait des Juifs partout. Aujourd'hui, il y a des gens, dans les journaux, c'est marqué qu'il y a une nouvelle arnaque. Des gens qui téléphonent pour proposer des masques. Ils disent, ouais, mais il faut payer tout de suite parce que sinon il y a quelqu'un d'autre, etc. Et un des centres, d'accord, de ces appels téléphoniques, c'est quoi? Évidemment, c'est Israël. C'est un chilou la chaîne. Énorme, absolument. Parce que quelque part, c'est nier notre identité. Donc, comme nous sommes responsables, si vous voulez, de faire apparaître la chaîne dans le monde, on ne peut pas faire le contraire de façon plus claire qu'en faisant ces choses-là. Que ce soit dans le carbone, que dans les droits de carbone, que sur Madoff, que ce soit, etc. C'est pas qu'ils sont tout seuls. Comment ça se fait que... Donc, ça, c'est quelque chose d'insupportable, en fait. Et après ça, on doit revenir aux choses fondamentales. Or, c'est ce qui nous est arrivé. C'est justement cette accession à une responsabilité qui nous dépasse, c'est vrai. C'est une responsabilité. La plupart des gens, ils peuvent dire, mais moi, je n'ai jamais pris cette responsabilité. Abraham, il a pris une responsabilité, et quoi, et maintenant, moi, ça me retombe dessus. Oui, ça nous retombe dessus. On n'a pas le choix. Bon, c'est comme si c'était devenu génétique chez nous. Pas le choix. D'abord, si. Pendant très longtemps, on s'est moqué des caractères acquis, dont on disait qu'ils devenaient héréditaires, etc. Aujourd'hui, on a un petit peu revenu là-dessus. C'est plus aussi évidemment faux. Parce que nous, on dit des choses comme ça. On dit que les Bnei Israël, ils sont Rahmanim, ils sont des gens qui ont honte, ils sont miséricordieux, etc. Bon. Alors, c'est souvent vrai. Il y a des exemples extraordinaires. Mais voilà. Il y a des fois où c'est difficile de dire une chose pareille à certaines personnes. Donc on doit faire très très attention dans ce domaine-là. Faire extrêmement attention. Parce que c'est notre identité qui est en jeu. On s'appelle Israël à la suite de cette opération. D'accord ? C'est à la suite de ce retour pour les Pachim Ktanim qu'il a eu la lutte contre l'ange des Saves, et que c'est l'ange des Saves qui lui a annoncé qu'il avait entendu qu'Hachem allait lui changer son nom de Yaakov et qu'il allait lui ajouter un nom qui parle de sa Yashrut, de sa droiture. Israël, c'est Yashar. Yud Shin Reish, c'est la Yashrut, la droiture. Donc ça veut dire, notre identité, c'est, on pourrait dire, Israël, c'est la droiture, c'est ça. On proclame, on est le peuple de la droiture. On a mis la droiture pas seulement comme au fronton de la mairie, etc. Mais c'est dans notre nom propre. Et donc on a une responsabilité faramineuse. Et à Pessah, c'est le moment de prendre conscience de cette extrême responsabilité qui nous dépasse. C'est vrai, ça nous dépasse. Mais du coup, ça nous met dans une position où effectivement, on a tout joué. On joue avec le goût, on joue avec la halakha pour faire passer toutes sortes d'idées qui, tout ce qu'on n'arrive pas à dire en mots, on va le dire d'une autre manière. On a essayé de le dire de toutes sortes de manières, en fait. Oui, c'est fondamental. Absolument fondamental. Il faut garder ce goût. La liberté, c'est quoi? C'est être lié par le vol. C'est quoi? C'est le contraire de la sortie d'Égypte. C'est pire que d'être en Égypte. Alors, il y a une lutte, effectivement, contre le monde qui nous cache Hachem. Mais il ne faudrait pas être amené à lutter contre nous-mêmes, parce que c'est nous-mêmes qui cachons Hachem. Le temps, on a dit, on a reçu un nouveau temps. Un temps qui commence, un temps qui contient en lui le principe de chidush, c'est une année de chodashim, de mois. Shana, c'est simplement la répétition, shnaim. Chodesh, c'est le renouveau. Et nous, on a une année qui est caractérisée par, qui est présentée comme, voilà, la chodesh azelachem, c'est rishon, il est le commencement de, ce sera désormais le commencement de l'année, d'une année qui est placée sous le signe du chidush, du renouveau, en fait. Et la Torah, c'est ce renouveau perpétuel. C'est la vie, en fait. C'est pas ce renouveau, c'est la vie. Parce que nous pensons qu'Akadosh Baruch Hu, il crée le monde. À chaque instant, il recrée le monde. Donc, si vous voulez, la vie, c'est pas quelque chose qui est donné une fois pour toutes et qui se déroule comme ça. En fait, la vie, elle nous est redonnée à chaque instant. Le monde entier est redonné à chaque instant. Si vous voulez une image, c'est un peu comme si le temps, chez nous, était un peu quantique. Quoi. C'est des instants de temps mis bout à bout. Ça donne l'impression de la continuité. Mais comme dans un film, vous mettez des images bout à bout, vous les faites se dérouler à une certaine vitesse, vous avez l'impression de la continuité. On sait bien que ce sont des images qui sont mises bout à bout. Il n'y a pas de continuité. Continuité, c'est une illusion que nous avons, parce que ça se déroule d'une certaine manière à nos yeux. Nous aussi, on voit le monde, on croit qu'il y a continuité, ça cache Hachem. Ça cache qu'en réalité, à chaque instant, Hachem recrée le monde. S'il recrée le monde, mais qu'à chaque instant, il faut d'une certaine manière que ça vaille la peine de nous recréer. C'est pas comme on est créé pour, voilà, ça va durer tant et tant d'années, c'est bon. Non. Même quand on donne la durée, ça va durer un certain temps, mais c'est un certain nombre de recréations possibles. Mais c'est pas sûr. On peut se conduire de telle sorte qu'on n'aille pas jusqu'au bout. Et puis, même, on peut avoir une situation où on peut aller plus loin que cela. Le roi Hizkiyahou, quand il a fait Tshuva, il a eu 15 ans de plus. Quand Ishaïe lui a dit « Tu vas mourir », il a expliqué, il a fait tchouva, etc. Et il a eu 15 ans de plus. Plus que, a priori, si Yeshayahu est venu lui dire « Tu vas mourir », ça veut dire qu'il est envoyé par Hachem qui lui dit « Voilà, c'est le terminus ». Mais il lui a dit « Le terminus, c'était parce que tu t'es pas conduit. Tu as pas, tu t'es pas senti responsable de faire avancer le monde, tu as pas fait ce qu'il fallait pour avoir des enfants, etc. » Il y avait de très bonnes raisons, qu'est-ce qu'il y a au Kamel. Il dit, moi, je veux pas mettre au monde des enfants qui seront super idolâtres. Et curieusement, la réponse, ça a été, c'est pas ton problème. Toi, t'as une mitzvah d'avoir des enfants, c'est pas ton problème. Après, tu feras ce que tu peux pour pour bien les éduquer, mais s'ils tournent mal, c'est pas ton problème, c'est pas de ta faute, c'est pas obligatoirement ta faute, c'est leur cheshbon à eux. C'est la vie de ces enfants-là. On ne fait pas de soucis. Alors, des fois, on fait des erreurs. Mais même si tu ne fais pas d'erreur, c'est peut-être que cet enfant-là, il a une certaine trajectoire qui va durer un certain temps. Peut-être ensuite, il va lui-même faire tchouva, etc. Ou il ne va pas faire tchouva, ou bien... Peu importe, mais c'est pas ton problème. Ton problème, c'est pas ça. Ton problème, c'est que tu dois faire ce qu'Hachem m'a demandé que tu fasses. Et donc, il faut... veiller à apprendre qu'est-ce qu'Hachem veut vraiment de nous. C'est-à-dire la question qu'on doit se poser, c'est voilà, on va vivre de façon extraordinaire ce céder. Du coup, je pense que aucun d'entre nous n'a jamais vécu un céder de Pessah dans ces conditions-là. D'accord ? C'est-à-dire que, comme j'ai dit, c'est ce qui est normalement une fête de famille, c'est pas seulement une fête de famille parce qu'on a l'habitude. C'est écrit dans la Torah, le Mishpachoterem. C'est le Korban Pessah, il était pris par une famille au sens large. Famille, les voisins, etc. jusqu'à ce qu'on soit assez nombreux pour manger le Korban Pessah, pas en laisser. Donc c'est quelque chose qui, dès le départ, est basé sur la famille ou les amis ou l'extension, la famille et extension, etc. Et maintenant, il y a il y a très peu de gens qui vont pouvoir faire en grande famille, personne ne va pouvoir le faire, mais même en famille, souvent, voilà, les enfants, il y a des enfants qui ne vont pas pouvoir rentrer chez leurs parents, qui vont devoir faire le céder tout seul. Il y a des gens qui vont être tout seuls à faire le céder. Alors ceux qui vont savoir faire le céder, la Gemara a envisagé qu'on soit tout seul. La Gemara, elle dit, tu dois enseigner à ton fils. Et la Gemara, elle demande, et quand il n'y a pas de fils, ben, tu enseigneras, tu le raconteras à ta femme. Et si je suis tout seul, ben, tu parleras à toi-même. D'accord? Tu te parleras à toi-même. Tu te raconteras à toi. C'est pas du tout, je fais rien puisque je suis tout seul. Non, non, non. Même si tu es tout seul, tu dois te raconter les choses à toi-même. Donc la Gemara, elle a envisagé, c'est possible de faire le céder tout seul. C'est pas que c'est une impossibilité. Bien entendu, le grand problème, ce sera pour ceux qui ne savent pas du tout comment on fait. Et qui voudraient faire tout à coup. Ils voudraient faire, mais ils n'ont aucune idée et ils sont tout seuls. Quelqu'un de tout seul qui a fait tchouva, qui n'a jamais vu de céder de sa vie, ou s'il en a vu un, mais il se rappelle plus. Eh bien, on fait le céder comme on peut. Pour terminer, je veux juste raconter une histoire que j'ai déjà racontée plusieurs fois, probablement, mais au bout d'un certain âge, on me répète. C'est comme ça. C'est une histoire qui est arrivée, une histoire vraie, bien sûr, qui est arrivée à Amélie Yakovovitch. Amélie Yakovovitch, c'est la fille du Rabbin Munk, la fille aînée du Rabbin Munk, qui a épousé Rabbin Yakovovitch, qui est devenu grand rabbin de l'Empire britannique. C'est un grand Talmid Chacham.
Alors,
pendant la guerre, le Rabbin Munk, il était prisonnier de guerre, et sa femme avec les enfants, ils ont, au moment de l'exode, ils sont partis vers le sud, comme tout le monde. Et puis bon, il y avait un tel balagan, comme les gens se sont perdus de vue, se sont retrouvés perdus. Et un beau jour, cette Amélie, qui était une petite fille, je ne sais pas, de 12 ans, ou quelque chose comme ça, elle s'est perdue. Elle a perdu la trace de sa mère. Elle s'est retrouvée toute seule dans la cambrousse française. Ce qu'elle fait, quand elle a frappé à une porte chez un fermier, c'était la nuit. Et le fermier, il a compris. Et il l'a fait descendre, par un soupirail, il l'a fait descendre dans une cave, où elle a retrouvé trois autres enfants, à peu près du même âge que le collège d'Idée et d'Adam, qui sont retrouvés être donc trois enfants juifs. Et puis bon, ben, ces enfants, ils étaient là. Et le fermier, c'est un brave type, tous les jours, il leur apportait de l'eau à boire, il leur apportait un seau pour leurs besoins, il leur apportait du pain, il leur apportait ce qu'il pouvait leur apporter pour qu'ils aient à manger. Et puis un jour, ils ont, en regardant par le soupirail, ils se sont aperçus, tiens, ils ont vu des pousses vertes. Et ces enfants, là, ils se sont dit, tiens, ça va bientôt être Pessah. Alors, un jour, bon, ça, le temps a un peu passé, puis au bout d'un moment, ils se sont dit, ah, on s'approche de Pessah, et ils ont demandé aux fermiers de leur donner de la farine, de leur donner un journal, et de leur donner des allumettes. Et un jour, ils ont décidé, aujourd'hui, c'est Pessah. Alors, ils ont mis le feu au journal, ils ont fait une pâte avec la farine et l'eau, des enfants qui... aucun n'était bar mitzvah ou bat mitzvah, des enfants petits, des ktanim, qu'on a eu un bam, 12 ans, quoi, 11 ans, 12 ans, je sais pas. Et ils ont fait des matzot, enfin, ils ont fait quelques matzot, et ils ont décidé, voilà, on va faire le seder. Et comme c'est Yom Tov, et puis Yom Tov, on doit mettre des beaux habits, ils se sont dit, ben, ils n'avaient pas de beaux habits à mettre, alors comme il y avait deux filles et deux garçons, ils ont échangé leurs vêtements. Et leur façon d'avoir des nouveaux vêtements pour le soir du Seder. C'est absolument génial, je veux dire. Et ils ont fait Pessah et chacun a raconté ce qu'il se souvenait de la maison. Il y avait des enfants plus ou moins religieux, là, dans cette affaire. Ils ont raconté ce qu'ils savaient du Seder, ce dont ils se rappelaient chez eux à la maison. Ils ont fait Pessah comme ça. Et Madame Jacobovitch, la révélation Jacobovitch, qui est la Lady Jacobovitch, elle a écrit il y a une biographie d'elle, dans laquelle cette histoire n'est pas rapportée, parce qu'elle n'avait pas raconté à la journaliste en ce moment-là, mais elle l'a raconté, ça a été mis dans un journal américain un peu plus tard, et elle raconte que, bon, finalement, elle l'a raconté cette histoire à ses arrière-petits-enfants, je crois. Et elle leur a dit que c'était le plus beau Pessah de sa vie. Alors, vous voyez, elle a fait Pessah avec ce qu'elle pouvait. Ils ont fait Pessah comme ils pouvaient. Et donc, c'est sûr que je suis pas autorisé à dire quoi que ce soit là-dessus, mais je suis sûr que dans le ciel, on a apprécié son Pessah à peu près aussi bien que le meilleur Pessah que nous, on peut faire. C'est absolument génial, l'inspiration de ces enfants, d'échanger des habits, etc. C'est incroyable, quoi. Repenser à ça, je veux dire. On raconte de gens qui disent de Rafraïkin que quand il était prisonnier de guerre, de Shabbat, il mettait sa vareuse à l'envers, ce qui était un cas de... Ça pouvait lui valoir en moins de la prison, hein, de faire des choses comme ça. C'est comme ça qu'il faisait Shabbat. On était obligé de... Et ils faisaient tout à deux. Le type disait, vous êtes complètement débile de faire à deux des choses qu'on peut faire seul. Non, on veut faire à deux. Ils faisaient à deux parce qu'on fait à deux des choses qu'on peut faire tout seul. On n'est pas Mechalel Shabbat, minatora. Mais ça, c'était les adultes, ils savaient. Mais là, ces enfants, ils ont été inspirés pour faire un Pessah extraordinaire. Voilà, je vous souhaite à tous un Pessah kasher, sameach et responsable. Peut-être que après Pessah, vous pourrez raconter le Pessah. Peut-être on fera une séance que vous avez retiré de particulier de ce Pessah. Pourquoi ce Pessah, il sera à coup sûr un Pessah comme vous l'avez probablement jamais vécu jusque-là. Nous l'avons jamais vécu, moi non plus, je n'ai jamais vécu ce Pessah. Et voilà. J'espère que Hachem accepte notre Pessah soit à la hauteur. Alors, d'abord, Shabbat, et Shabbat Shalom, et ensuite, c'est ça, la chère sa mère. Le prochain Shiur aura lieu probablement après Pessah, je ne sais pas exactement quand, mais après Pessah, on en verra probablement des choses comme ça la semaine après Pessah, je ne sais pas. Ah, il reste encore le Shiur de... Je ferai encore Shiur... dimanche, mais dimanche c'est un chiot de, sur autre chose, donc il n'y aura plus de chiot aussi grand.
Lundi, il n'y a pas de
chiot. Pardon?
Lundi, il n'y aura
pas de chiot. Je ne ferai plus. D'accord. Le chiot, je ne peux pas garantir d'être disponible. Okay. Il faut que je fasse aussi quelque chose dans la maison. On n'est que deux, alors. Oui, ma femme, elle fait de la cuisine dans une. Pour deux personnes dans des marmites qui sont faites pour cuisiner pour 20 personnes. On n'a pas de petite marmite qui fait ça. On n'a pas.